Bon, bonsoir tout le monde, bienvenue, merci d'être ici présent à ce conseil du mois de mai 2026. Ce soir, nous avons le quorum. Cependant, M. Frédéric Paré-Franco est absent. Donc, on a ça au conseil. Excellent. Nous allons aussi avoir M. François Monteau, DG, et Mme Mélissa Turmel, notre greffier trésorière. OK, d'accord. Donc, nous ouvrons la séance à 19h03. Oups, un instant. J'arrive. On aimerait porter une modification à l'ordre du jour. Donc, on voudrait ajouter le point 6.3, donc l'intégration de la ville au devis, donc à l'appel d'offres en matière de transport collectif de la MRC. Donc, on va vous parler de ça à 6.3. Ensuite, ça c'est au niveau de l'ordre du jour, qui propose l'adoption de l'ordre du jour?
Je propose Véronique Bélanger.
Merci Véronique. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne. Donc adopté à l'unanimité pour l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 avril 2026 dernier. Qui nous propose l'adoption?
Véronique Bélanger.
Merci Véronique. Et est-ce que quelqu'un demande un vote? Personne. Donc c'est adopté à l'unanimité pour le procès-verbal présent. OK, donc 1.5, adoption du règlement F2026-04 relatif à la loi concernant les droits sur les mutations immobilières applicables aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Modifiant le règlement F2024-03. Donc, je vous lis ça. Donc, considérant que la ville de Langueulage, MRC de l'Agent-Quartier, est régie par la loi des cités et villes, ainsi que la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, considérant les dispositions de la loi concernant les droits de mutations immobilières, à l'effet que toutes les municipalités peuvent prévoir qu'un droit supplétif au droit de mutation doit lui être payé dans tous les cas où survient un transfert d'un immeuble situé sur son territoire et où exonération la prime du paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert. Considérant l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, à l'effet qu'une municipalité peut par règlement fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 sans excéder 3 % du montant. Considérant que les frais reliés aux opérations de transfert des droits de propriété au niveau du rôle d'évaluation et des activités financières, considérant que le Conseil juge équitable de se prévaloir des dispositions de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 13 avril dernier, considérant qu'un projet de règlement a été présenté lors de la séance du Conseil du 13 avril, et ça me prendrait un conseiller qui propose cette résolution.
Je vais proposer
Véronique
Bélanger.
Merci Véronique. Donc, il est résolu que le Conseil adopte le règlement F2026-04, abrogeant le règlement F2024-03, relatif aux lois des droits et mutations immobilières applicables au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Très bien. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, au point 2.1, nous déposons un bordereau des communications. Ensuite, au 3.1, adoption des comptes à payer et à recevoir. Donc, considérant que les comptes à payer au 11 mai 2026 totalisent un montant de 120 206,35 et de 26 371,31 $. Ça me prendrait un conseiller qui propose.
Je vais proposer Karine Chelfour.
Merci Karine. Donc, il est résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée, que soit autorisé le paiement des comptes fournisseurs au 11 mai 2026 et, selon les échéances prescrites, est-ce que quelqu'un demande le vote? Très bien. Donc, adopté à l'unanimité. Quant à recevoir, donc, M. François Morneau, directeur général, dépose la liste des taxes à recevoir au 11 mai, ce qui totalise une somme de 737 896,32 à recevoir en date d'aujourd'hui.
Je pense que le deuxième paiement, c'est demain, d'ailleurs.
Effectivement.
Donc, ça va descendre. Merci. OK. OK, donc au point 3.3, nous allons faire le dépôt des états financiers. Donc, les membres du Conseil ont tous reçu une copie des états financiers avant l'adoption dans les délais prescrits par la loi. Madame Julie Chouinard, CPA, auditrice CA chez Mallette, fait état du rapport du vérificateur. Donc, on va l'inviter à nous préparer ça. Et ensuite, Madame Mélissa Turmel, la trésorière, dépose les présents états financiers au 31 décembre. OK, d'accord. Madame Chouinard, je vous invite à prendre la parole. Vous allez où vous voulez. On a
la chaise des choses.
Bonjour tout le monde.
Je peux le présenter. En fait, c'est ça ce que je fais là.
Ah,
c'est bon,
moi, c'est
juste
le texte qu'il y a vu.
Ah, c'est bien.
Tu l'as
sur ta
feuille. Il est écrit en trois points.
Donc, c'est correct. Je vais tout vous résumer ça, vous allez voir. Donc, le rapport de l'auditeur, c'est un rapport qui est quand même assez standard. Hein? C'est normé par les normes canadiennes d'audit. Donc, dans le premier paragraphe d'opinion, on vient dire ben, c'est sur quel exercice financier, fait que c'est le 31 décembre 2025, bien sûr. Puis, je vais vous lire l'opinion qui a été émise suite au travail qui a été réalisé. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, des gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs nets ou de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes canadiennes comptables pour le secteur public. Donc ça, c'est l'opinion qui a été émise en date du 29 avril dernier. Les états financiers ont été adoptés par la trésorière à cette date. Après ça, à l'intérieur du rapport, on a le fondement qui vient dire, en fin de compte, que nous, on a suivi les normes canadiennes d'audit, qui est le référentiel qui s'applique dans le cadre de notre audit. Également, il y a une observation. Des fois, il faut faire attention. Vous avez vu dans l'opinion qu'il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de mention pour dire qu'il y a un élément qui ne respecte pas les normes ou quoi que ce soit. Une observation, ça vient juste mettre le focus sur un élément. Étant donné que je vous ai mentionné que c'est les normes du secteur public, bien, il y a d'autres règles au Québec. C'est les normes avec le MAMH, le ministère des Affaires municipales, qui vient mentionner des règles particulières en plus du secteur public. Donc, on vient faire une mention qu'il y a certaines pages à l'intérieur du rapport financier qui est spécifique avec ces règles-là, les règles du MAMH. Après ça, dans le rapport, on met toujours les responsabilités de la gouvernance, donc de la direction qui est en lien avec les états financiers, donc s'assurer qu'ils respectent les normes et qu'ils sont conformes aux différentes activités qui ont eu lieu dans le cadre de la municipalité, puis aussi qui ont mis en place un processus de gouvernance qui est adéquat. La dernière portion du rapport de l'auditeur, c'est les responsabilités de l'auditeur. Donc, de s'assurer justement là, qu'il y a une assurance raisonnable par rapport à la comptabilisation des différentes opérations en lisant les différents documents, les procès-verbaux, que les décisions qui ont été prises sont bien reflétées à l'intérieur des états financiers. Puis de s'assurer aussi que les méthodes comptables qui sont utilisées, bien, qui sont appropriées dans le cadre des opérations de la municipalité. Puis par la suite, bien, on a toujours bien sûr la responsabilité de communiquer avec le conseil et avec la gouvernance, avec la direction, pour leur mentionner, en fin de compte, le calendrier, l'exécution du travail, puis les éléments importants qu'on a retracés dans le cadre de l'audit. Tout ça étant donné, je voulais mentionner que le rapport a été signé en date du 29 avril dernier.
Merci. C'est complet.
C'est complet pour moi.
Merci. Super, Madame Chouinard. Merci beaucoup.
Merci.
Oui, là, on va vous laisser sortir par ici.
Par la porte.
Oui, par le côté jardin.
Merci,
Mme
Chouinard.
Bonsoir. Merci. Bon. Alors, Mélissa va vous présenter les états financiers en date du 31 décembre et nous expliquer certains écarts par rapport au budget. Là, donc,
et voilà.
Ben, bonjour à tout le monde. Fait que c'est la première fois que je présente les états financiers en tant que trésorière. Je suis assez nerveuse, mais ça va bien aller. Fait que, super bonne nouvelle, ben, on a un un excédent de 95 558 pour l'année 2025. Fait que ça, c'est le rapport que la nous présente toujours avec les explications des écarts entre chaque... juste ici, on le voit, dans le fond, on marque chaque caractère, chaque explication. Je ne les passerai pas toutes parce que sinon, tu sais, c'est beaucoup comptable et je vous dirais que je vais vous perdre dans les explications. Fait que j'ai ciblé vraiment là, les plus importantes pour pouvoir vous expliquer. Fait que ça, c'est un peu pour vous expliquer, là, dans le fond, le revenu de fonctionnement, il y a toujours le budget initial qui est adopté toujours à la fin de l'année de l'année d'avant. Puis on travaille avec lui. Puis on a les réalisations qui est notre réel au 31 décembre. Puis il y a des écarts qu'on vient expliquer pour chacun des postes, les écarts. Fait qu'on remonte encore le 95 558 $ qu'on a fait en excédent cette année. Fait qu'au niveau des revenus, dans le fond, au budget, on a fait un surplus d'un ordre de 175 502. Puis, les principales explications, ben c'est les revenus de subvention. Premièrement, la TEC, parce qu'il en restait une balance de la dernière TEC. Le PVAVS, c'est un programme de voirie locale qui n'est jamais inclus dans le budget parce qu'on ne le sait jamais. On dépose au printemps, puis on le sait dans l'année. C'est un surplus qui sort toujours, puis on ne sait jamais combien, on ne sait jamais rien. Puis, Recycle Québec, ben il manquait un montant qui n'avait pas été calculé là, lors de l'année dernière. Ensuite, les impositions de droits, c'est les droits de mutation. Pour nous, dans le fond, vu qu'on n'a pas de réserve, on n'a pas de coussin, ben, j'essaie toujours, depuis qu'on s'occupe de l'administration, de le mettre le plus bas possible. Fait comme ça, ben, quand on a des surplus plus de ventes, ben, ça nous fait un coussin pour s'il y a des imprévus, un bris d'aqueduc ou quoi que ce soit, ben, ça nous permet de l'éponger et de ne pas finir avec un déficit. Ensuite, les intérêts sur les arriérages de taxes, qui a été plus important l'année passée. Puis, sinon, la subvention de la Ville de Québec, c'est dans le fond, au niveau des programmes de subvention des fosses septiques, bien, les fosses septiques sont admissibles à la subvention, mais aussi les heures de notre employé, l'inspecteur qui est sur le terrain, à 66,2%, qui fait une subvention, mais qu'on ne peut pas estimer. Fait qu'on y va au fur et à mesure, fait que ça fait qu'on a fait un surplus de revenus de 175 502. Ensuite, comme je vous dis, je vais vous expliquer seulement les explications au niveau des dépenses les plus significatives. Fait qu'au niveau de l'administration générale, la dépense électorale, on a eu moins de dépenses pour 5 000 $, puis c'était en raison de la grève de Post-Canada. Au niveau des cartons électoraux, ben c'est au moins une dépense de 3 000 quelques $, fait que ça fait qu'on a eu une dépense moins élevée. Au niveau de la joie, ben l'année passée, on a eu moins, parce que j'ai formé Isabelle, il y a eu les élections, où c'était une période que tu ne peux plus publier. Fait que ça fait qu'on a eu deux de la joie de moins, fait qu'on a eu une dépense de moins. Puis au niveau des heures supplémentaires, ben dans le fond, c'est que quand on fait notre budget, on prévoit les heures, tant de semaines, tant d'heures, mais je n'ai pas prévu le supplémentaire pour l'étude du budget, pour la fin d'année, pour toutes ces choses-là. Puis aussi, depuis 2 ans, ben, les gars des travaux publics, ils font tout l'entretien de l'hôtel de ville, ils montent la salle, fait que maintenant, ils se mettent des heures dans le régulier. Fait que j'ai un 3 500 qui était attribué à eux, que je n'ai pas mis de temps dans l'administration. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'au niveau des travaux publics, là, j'ai 16 postes de travail. Fait que ça se peut que j'en ai un que je vais être beaucoup moins de dépenses, puis que l'autre, je vais en être plus, mais dans ma masse salariale, j'arrive kiff quand même. C'est juste dans les postes que ça peut changer. Ensuite, pour le transport, on a eu un surplus de dépenses de 17 000 $, qui est justement expliqué en partie par les heures des travaux publics, puisque je joue beaucoup entre les postes. Puis pour l'élargissement des rues, parce que des fois, il y a une année que je n'ai pas besoin de payer un versatile pour élargir les rues. L'année passée, on est obligé d'en faire venir 2 fois. Fait que c'est des dépenses qui ne sont pas prévues dans ce poste de grand livre-là. Fait que ça fait que ça fait des augmentations. Au niveau de l'hygiène du milieu, ben la plus grosse partie de dépenses, c'est la vidange des rues. Parce que oui, on a adopté un règlement d'empreinte. Mais tant que toute la dépense n'est pas faite à 100%, je n'ai pas le droit d'emprunter. Fait que là, toutes les grosses poches, toutes ces choses-là, c'est des dépenses qui sont déjà faites. Mais tant que je n'aurai pas fait la disposition, ben, je ne peux pas emprunter. Fait que là, ben, ça me fait qu'on a une grosse écart dans ma dépense, mais on le voit que plus loin, il va dans mon règlement d'emprunt à les financer. Fait que ça s'allume. C'est pour ça que c'est des chiffres, des fois, comptables qui sont plus difficiles à comprendre. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, j'ai une dépense de 97 566. Fait qu'en partant, ben, j'ai la subvention que je vous ai expliquée tout à l'heure là, sur les fosses septiques qui est admissible à 66 2/3. Toutefois, la ville, elle doit quand même assumer le 33 1/3. Fait que comme on ne peut pas savoir combien d'heures il va être obligé d'allouer, ben, ça apparaît. Puis, lorsqu'on faisait nos suivis mensuels, puis tout, je vais vous le montrer tout à l'heure, ben, on a engagé un inspecteur pour des normes sur les inspections pour les mises aux normes des piscines. Fait qu'on avait besoin de quelqu'un pour épauler. Fait que ça le fait qu'il y a plus de dépenses, mais on s'arrange toujours pour que nos budgets soient quand même équilibrés. Ensuite, au niveau des loisirs, ben, l'entente de loisirs avec Stournam, elle était quand même un peu plus coûteuse parce qu'avant, elle marchait à 40 par semaine. Maintenant, là, c'était 50 % plus les frais d'administration, fait que ça a fait que ça a augmenté. Toutefois, ben, c'est un besoin essentiel pour que les familles puissent travailler et que ben, ça envoie les enfants aux loisirs. Fait qu'on l'a dépensé plus, mais t'sais, c'était un choix qu'on a décidé de faire. Au niveau de la réparation des parcs, ben, y a quand même des fois plus de bris, fait que l'ajustement. Mais on s'arrange toujours, car avec nos suivis mensuels, on sait que oui, on a dépensé plus, mais on avait quand même l'argent qui rentrait. Fait que oui, il n'est pas tout à fait des fois dans les bons postes. Puis ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en fin d'année, au mois de novembre, je devrais faire des écritures de montants. Mettons, ben, j'ai des subventions que je n'ai pas prises, ou j'ai des dépenses, comme dans le loisir, justement, au niveau de la Saint-Jean. Ben, on n'avait pas fait de fête d'études, puis on n'avait pas fait l'autre loisir. Fait que c'est des montants que moi j'ai pris pour pouvoir utiliser pour bonifier un peu ma Saint-Jean. Mais comme j'ai pas fait mes écritures de correction, ben ça fait qu'au niveau, mettons, de la Saint-Jean, ben, j'arrivais à faire moins 5 000. Mais que quand tu la patries toutes les postes de grand livre qu'on n'a pas utilisés, ben je réajuste mon budget. Puis sinon, le frais de financement, dans le fond, c'est vraiment l'emprunt des bouts qu'on n'avait pas fait, parce que comme on n'avait pas fini de faire la vidange, ben, je ne pouvais pas emprunter. Fait que c'est une portion d'intérêt que j'ai sauvée. Fait que ça, c'est pour les dépenses, les explications de but des dépenses là, importantes. Ça, dans le fond, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est notre outil qu'on utilise, le suivi mensuel que je fais à toutes les semaines, que je présente, à tous les mois que je présente au conseil. Puis dans mon suivi, je mets toujours les imprévus qui se rajoutent à tous les mois. Comme là, cette année, on a eu un bris d'aqueduc. Puis après ça, il y a eu la panne de courant, tu sais, c'est des dépenses que tu sais que d'habitude tu ne l'aurais pas budgété. Bien, on fait des suivis comme ça. Puis, à ce moment-là, je fais la même chose aussi dans l'économie. Bien, on se rend compte que la dépense a coûté moins cher. Fait que je le mets dans l'économie. Fait que quand on arrive à la fin, bien, on a un montant qui est disponible pour les imprévus. Ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, que ça nous a permis d'engager notre inspecteur pour aider parce que j'avais un coussin de 19 000 qui me permettait de pouvoir faire cette dépense-là qui n'était pas prévue. Ensuite, on vous a fait un petit peu le suivi des excédents et des déficits au cours des années. C'était pour vous montrer que, dans le fond, la ville, elle se porte quand même bien. Oui, on a fait un gros déficit en 2023, mais au fil des autres années, on a toujours été en surplus. Puis, cette année, juste pour vous dire, dans le fond, notre surplus réel, il était de 128 950. Toutefois, lorsqu'au mois d'avril, on a signé la résolution pour la quittance du dossier juridique Paris-Scott, bien, ça faisait une dépense qui était imprévue de 33 392. Puis comme c'était judiciaire, qui était déjà en cours l'année passée, bien, Malek ont décidé de le prendre à même le surplus de l'année passée pour pas qu'on ait un imprévu qu'il faut éponger cette année. Donc, notre surplus est moins gros, mais on a épongé une dette qui peut faire mal des fois au cours des années. Puis, je vous ai montré un petit peu, dans le fond, souvent, on a des questions par rapport à la dette à long terme. Oui, la dette à long terme, en date d'aujourd'hui, elle est de 5 853 000. Toutefois, ce qui est vraiment important de le remarquer, c'est que les subventions, que ce soit les travaux d'aqueduc et d'égout, que ce soit pour l'hôtel de ville, C'est des subventions qui sont importantes, mais qui sont subventionnées sur 20 ans. Mais comme nous, on est une petite ville, bien souvent, on doit emprunter cet argent-là parce qu'on n'a pas les moyens de dire qu'on finance les subventions. Fait que oui, on a une grosse dette, mais une fois qu'on prend le montant des subventions à recevoir, qui est de 2 472 000, bien, ça nous fait un endettement à long terme net de 3 394 000, qui est quand même moins pire que quand on prend la dette à long terme. Puis, je vous ai montré aussi, dans le fond, vous savez qu'en 2023, on a fait un déficit de 196 000. Le MAMH nous oblige, quand il y a un gros déficit comme ça, qu'il soit remboursé sur 5 ans. Fait que sur 5 ans, bien, ça nous fait des remboursements de 38 000, 40 000, 41 000, qui est quand même important. Cette année, en 2026, on est l'année 2. Fait qu'il en reste encore 3 ans où, ce que oui, ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut que je l'inclue dans mon fonctionnement. Fait que, tu sais, ça paraît que des fois qu'on a l'impression de taxer pour rien, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Mais dans 3 ans, cette dette-là, elle n'existera plus. Puis ensuite, on voulait faire un peu l'image de ce qui allait se passer cette année au niveau des financements. On a 2 refinancements qui sont échus, dont un qui est échu depuis le mois de mars. Puis ce qui nous a permis de ne pas aller tout de suite emprunter pour cet emprunt-là, c'est le fait qu'on ait accordé l'escompte de 3 % pour que je puisse avoir du cash, des fonds plus rapidement possible. Fait que moi, ça m'a empêché d'aller chercher un emprunt temporaire, ça m'a empêché de payer des intérêts sur la marge de crédit, parce que puisque je l'ai eu, j'ai réussi à éponger ma dette du mois de mars. Au mois de juin, bien, c'est la même chose, j'en ai un autre aussi de 109 400 qui va comme s'auto-payer toute seule avec les fonds que j'ai eus pour me permettre de faire ça. Parce qu'à l'automne, on va avoir 2 emprunts qui étaient déjà, les résolutions étaient déjà passées. Donc, pour la finalisation du parc qui va se faire à partir des prochaines semaines. Puis, la vidange des bouts aussi qui devrait se régler d'ici cet automne. Fait qu'au lieu d'avoir 2 renouvellements plus 2 nouvelles emprunts, bien, ça m'a permis qu'en faisant tout à l'automne, bien, je vais avoir seulement 1 emprunt. Fait que je vais avoir juste 1 versement. Fait que les taux d'intérêt risquent aussi d'être un peu plus moins élevés que présentement à 4-5%. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions?
Oui.
Ben,
bravo.
Oui, c'est très clair.
Merci.
Juste 2023, je
me suis
perdue. Comment
ça
qu'il y avait une chute comme ça?
Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on a présenté les états, il y a eu vraiment un déficit de 196 000. T'sais, on n'essaie pas de trouver le pourquoi, on n'essaie pas de trouver. Tout ce qu'on fait, c'est qu'en faisant les suivis mensuels qu'on a implantés depuis 2 ans, bien, ça nous permet de le voir au fur et à mesure. T'sais, on ne peut pas, à moins qu'il y ait de méga grosses c'est imprévu, c'est impossible parce qu'on les voit aller au mois par mois.
Parfait. Ah, il y a une question.
Louis Vermeléger, du Bonheur. Quelle est l'échéance moyenne de la dette? Combien d'années en moyenne?
Bien, ça dépend vraiment, là, parce que là, justement, j'ai comme 2 renouvellements puis 2 emprunts. Mais même que je l'ai fait cet automne, on va vraiment vous montrer plus à long terme. Tu sais, parce qu'un des renouvellements qu'on a à faire, le 128 000, il reste 5 ans, il est fini. Ensuite, la déneigeuse, il reste 3 ans, c'est terminé. Fait que je vous dirais que dans les 3, 4, 5 ans maximum, on va vraiment avoir baissé de beaucoup la dette. Puis, on n'a pas d'autres infrastructures importantes et majeures à refaire prochainement.
Pas cette année.
Ben, en tout cas, pas cette année, mais tu sais, on essaie de le contrôler le plus possible, d'essayer d'en éponger pour qu'après ça, oui, on a d'autres travaux d'aqueduc à faire. Oui, on a une tech. Dans le fond, on a quand même un bon montant de 671 000, mais les coûts sont vraiment exponentiels. Parce que quand on refait les aqueducs et les goûts, là, ben, là, 5 ans, ça coûtait 2 000 $ du mètre linéaire. On est rendu à 5 000 et plus. Fait que les coûts ont vraiment monté. Les subventions, ils n'ont pas monté du tout. Fait que ça fait en sorte que la ville faut encore qu'elle débourse pour pouvoir faire des travaux. Fait qu'on essaie d'y aller plus par phase, en y allant avec les urgences, malheureusement. Mais disons, on essaie de le planifier à long terme le plus possible.
D'ailleurs, ça fait l'objet de gros débats dans la presse encore ce matin. Il y en avait un article la semaine dernière aussi. Le financement des municipalités, les municipalités de dire au gouvernement, vous avez le droit de vous endetter un peu plus. Les municipalités n'ont pas le droit de s'endetter. Il faut avoir toujours des budgets équilibrés. Sauf que la demande pour refaire les infrastructures est telle que on prend du retard. Nous, on a la chance, là, avec cette dette-là, on a presque les 4-5 ans de notre réseau qui a été refait. Nos équipements sont neufs, l'hôtel de ville est neuf. Donc, nous, là, notre pic d'emprunt est fait. Là, on va commencer vers la descente. Ce qui reste à faire, c'est quelques tronçons, là, puis on va prendre le temps de le faire. Comme cette année, là, on n'embarque pas dans les projets là, rapidement pour ne pas avoir réemprunté. On va attendre que le marché se stabilise un peu. On a jusqu'en 2028 pour décaisser là, pour la subvention qu'on a eue. Donc, on attend un peu, parce qu'on est capable d'attendre. Le pire a été réparé déjà. La seule chose qu'on va faire rapidement, c'est une conduite sanitaire qu'il faut aller aliéner, enlever les racines, faire un gainage. On va en parler tantôt. Ça, c'est une urgence qu'il faut faire. Sinon, le reste, on va voir venir. Pour justement donner le temps d'absorber là, ce qu'on a dépensé. Mais comme je vous dis, le gros du financement a été fait ici au Lac-de-Lâche. Contrairement à d'autres municipalités qui n'ont pratiquement pas de dette, mais tout est à faire. C'est un des gros enjeux des affaires municipales d'inciter les municipalités à revoir leurs infrastructures avant que ça lâche. Parce que vous savez, il y a des gros retards dans les municipalités au niveau des infrastructures. Pensez à Montréal, là, il y en a pour 60 milliards, semble-t-il, en termes de retard. Ils se sont payés les stades olympiques, ils ont fait toutes sortes de trucs. Mais là, ils sont dus, là, parce que les routes s'effondrent. Nous, notre gros travail est pas mal fait ici.
Merci. Les eaux usées, c'est quand même un investissement assez important qui éventuellement doit être fait.
En fait, pour l'instant, notre usine, pour le parc immobilier qu'on a, ça suffit. On répond aux normes. Actuellement, c'est seulement pour les projets à venir. Là, on est un peu bloqué dans notre développement. Tant qu'on n'a pas trouvé de solution pour augmenter notre capacité d'épuration. On est là-dessus actuellement. Il y a des rencontres là, avec les villes de Québec et de Stoneham pour regarder ce qui peut être fait.
Merci, François. Parfait. Merci beaucoup, Mélissa.
Oui, très bien. Merci.
OK, donc... très clair, puis ça va bien. C'est toujours plus de présenter ça dans ce temps-là. OK, good. Donc, 3.4, donc, avis de motion et de dépôt du projet de règlement G2025-02 sur la gestion contractuelle modifiant le règlement G2024-01. Donc, ça attendrait un proposeur pour cet avis de motion-là.
Moi, Alexandre Morin.
Merci, Alexandre. Donc, Alexandre Morin, pour l'adoption du règlement G2025-02 concernant la gestion contractuelle abrogeant le règlement G2024-01. Les membres du conseil ont tous reçu copie du projet de règlement et comme est prescrit la loi, donc ça va être présenté au prochain conseil de juin. D'accord. Je vais prendre le relais pour le point 4.1, s'il te plaît.
Donc, 4.1, adoption du règlement G2026-03 édictant le code d'éthique et déontologie des élus municipaux en remplacement du règlement G2022-01. Considérant qu'une élection générale s'est tenue le 2 novembre 2025, considérant que l'entrée en vigueur le 5 novembre de l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant sur les élections et les référendums dans les municipalités et la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, donc ça, on va le nommer plus loin comme LEDMM, laquelle modifie le contenu obligatoire en code d'éthique et de déontologie des élus, considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus, considérant que les formalités prévues à la LEDMM pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées, considérant que M. Alexandre Pelletier-Nair mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la municipalité, d'un autre organisme. considérant que la liste, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux qualités ontologiques prévues à la LEDMM, ainsi que dans le présent code. Considérant que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir un lien de confiance entre la ville et les citoyens, considérant qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics, considérant qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Considérant que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du conseil tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs qui étant prévues. Considérant que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts, considérant que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du conseil, considérant qu'il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer les standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale, considérant quelle notion du présent règlement a été donnée par Véronique Bélanger à la séance du 13 avril 2026 sous la proposition du conseiller.
Je vais proposer Karen Faux.
Il est résolu que le conseil adopte le règlement G2026-03 abrogeant le règlement G2022-01 éditant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux en remplacement du règlement G2022-01.
Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette proposition? Donc, c'est avec quelle unanimité? Merci, Véronique. Bon, on laisse la parole.
4.2, nomination des membres du conseil sur un comité de négociation dans le dossier Empire 47. Donc, considérant qu'un protocole d'instance en matière civile a été déposé à la Cour supérieure du Québec contre les événements sentiers actifs faisant face au nom d'Empire 47, le manoir de l'aglage et les immeubles des Monts le 30 août 2023, considérant que les démarches des divers partenaires impliqués ont évolué, considérant que le conseil municipal a entrepris de relancer les négociations auprès des divers organismes concernés dans le litige, considérant qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal peut constituer un comité chargé de faire l'examen de questions relevant de sa compétence et de lui faire des recommandations, considérant que l'élaboration d'une entente par un comité formé d'élus entérinés par le conseil municipal est la responsabilité d'assurer un suivi du dossier spécifique et puisse lui faire une recommandation. Donc, sur ma propre proposition, il est résolu que le conseil nomme M. Alexandre Pelletier, maire, M. Alexandre Morin, conseiller au siège numéro 2, et Mme Karine Charette-Chalifour, conseillère au siège numéro 5, sur le comité de négociation visant une éventuelle entente. Que ce comité produise des recommandations au conseil municipal dans les meilleurs délais.
Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette proposition?
Non.
Alors, c'est adopté à l'unanimité. 5.1, nous allons passer la parole à
ouais.
M. Alexandre.
Merci. Lorraine. Donc, aux travaux publics, c'est on a un seul point, c'est l'adjudication d'un contrat donné aux entreprises CTM incorporées pour la réalisation des travaux d'aménagement de la dernière phase du parc municipal dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives. Considérant que les travaux pour finaliser le parc municipal devront être réalisés conformément aux subventions reçues dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives, considérant que des modifications et des bonifications ont fait l'objet de plans et devis, de bordereaux et de cahiers de charges, considérant qu'une demande de soumission sur invitation a été transmise le 18 juillet 2025 à diverses entreprises, dont Construction et Rénovation d'Annie Dubuc, Excavation, Action, les entreprises CTM incorporées, ainsi que les Sans Frontières Paysagistes, considérant que seules les entreprises CTM incorporées ont transmis une offre de service dans les délais prévus, considérant que les ajustements à l'offre de services ont été apportés afin de rencontrer les objectifs budgétaires, je vais proposer que le contrat soit donné à CTM Incorporé pour la réalisation des travaux d'aménagement d'un amphithéâtre en plein air, de la mise en place de jeux d'eau, des bruines, d'un abreuvoir sur dalle de béton, de leur raccordement à une conduite d'eau à implanter et de l'enfouissement d'un câble électrique et le raccordement et pose d'une boîte électrique. Le montant est de 90 707 avant taxe, soit prélevé à même le règlement d'emprunt. Donc, c'est ça.
Merci, Alexandre. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution? Personne, donc, c'est adopté à l'unanimité. OK, donc on va passer au point.
Monsieur le Président, il faudra ajouter que tout ça va être adopté dans un règlement d'emprunt. Il faut le nommer, le règlement d'emprunt.
E-2025-01, s'il vous plaît. Merci.
E-2025-01 pour le règlement d'emprunt pour le contrat.
Excusez.
Parfait, merci. Non, ça va. OK, excellent, merci. Donc, 6.1, je vais passer la parole à Mme Karine Chalicourt, au sujet de l'ensemble de session.
2.1 d'urbanisme développement durable, 6.1 en forme de cession des terrains et infrastructures publiques relatives au projet des Hauts-Bois de l'Angelage, abrogeant les résolutions 2026-045 du dernier conseil au 13 avril 2026, considérant que la ville a adopté par la résolution 2026-045 l'entente de cession des terrains et infrastructures relatives au projet des Hauts-Bois, phase 1, rue du Refuge. Considérant qu'il convient de modifier cette entente afin d'y inclure les nouveaux propriétaires de l'immeuble désigné comme étant le lot numéro 5 730 403, acquis le 19 décembre 2025, sur lequel était projetée une phase 2. Considérant que la superficie du lot qui fait l'objet de la cession pour fin de parc compense amplement le développement de la phase 1 et l'éventuel développement sur le lot 5 730 403 récemment acquis, considérant qu'il était convenu qu'à la fin des travaux d'une cession à la ville d'infrastructures publiques et de terrain pour fin de parc ont été reportés dans la perspective qu'une phase 2 était projetée subséquemment au développement immobilier de la phase 1. Donc, je propose, sous la proposition de son pays, il est résolu que le Conseil approuve l'entente amendée de cession d'infrastructure et de terrain et d'abroger la résolution 2026-045 du 13 avril. Que le maire, M. Alexandre Pelletier, et le directeur général et greffier, M. François Morneau, soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour officialiser cette nomination et pour donner effet à cette résolution. Donc,
Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette proposition? Parfait, donc adopté à l'unanimité. 6.2.
Merci. 6.2, la prolongation du contrat de travail de M. Schneider-Augustin jusqu'en décembre 2026, considérant que M. Schneider-Augustin agit à titre d'inspecteur en bâtiment et environnement depuis juillet 2025. Considérant que la Ville doit compléter la concordance de sa réglementation d'urbanisme pour se conformer au schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier. Considérant que la Ville doit amorcer une importante mise à niveau de l'ensemble de sa réglementation, de son plan d'urbanisme et de son zonage, notamment pour se conformer au plan métropolitain d'aménagement et de développement PMAD-CMQ, et d'ajouter les nouvelles dispositions réglementaires du ministère de l'Environnement, qui seront administrés par la Ville, qui sont issus du programme de modernisation du régime d'autorisation environnementale et de la concordance du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement RERAPI. Considérant qu'il est opportun d'apporter un soutien professionnel au service d'urbanisme de la Ville afin que les mandats réguliers puissent se réaliser compte tenu de l'importance des mandats de mise à niveau de la réglementation de la Ville. Donc, considérant qu'ils ont des agendas très chargés qui s'en viennent cette année. Donc, je propose que le Conseil renouvelle pour une période de 6 mois le mandat de M. Schneider-Augustin, à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement, et responsable de l'émission des permis, et qu'il soit autorisé à aller inspecter sur le terrain et à signer tous les faits relativement à l'émission du permis.
Est-ce que quelqu'un demande un vote sur cette proposition? Bien, donc c'est adopté à l'unanimité. 6.3, je vais passer la parole à vous, M. Thibault.
Oui. 6.3, intégration de la ville au devis d'appel d'offres en matière de transport collectif de la MRC de la Jacques-Cartier. Donc, considérant que la MRC de la Jacques-Cartier à compétence en transport collectif, qu'elle est mandataire du service et offre les services de transport collectif régional, considérant que la MRC doit retourner en appel d'offres pour offrir un service à compter de février 2027, considérant que la MRC a tenu plusieurs rencontres de travail avec la ville de Lac-de-Lage afin d'évaluer les besoins et proposer une offre de service en conséquence, considérant que le conseil municipal a statué sur l'opportunité du projet de transport collectif pour les citoyens de Lac-de-Lage, en conséquence, je propose, Thibault Duster, que le préambule fasse partie intégrante de la résolution et que le conseil de la ville de Lac-de-Lage est favorable à son intégration au devis de transport collectif de la MRC.
Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette proposition?
Non.
Personne, donc adopté à l'unanimité. Merci. 7.1, France, je vous cède la parole.
Merci. Donc, nomination du comité du jardin communautaire Bette et Simulette. Donc, considérant que le comité jardin est composé de Marie-Michelle Parent, Anne-Catherine Brisson, Patrick Burns, Cathy Goggins ainsi que Nicole Leblanc, considérant que le jardin communautaire est une entité de la ville financée à main le budget des cotisations annuelles des membres, considérant que le comité de jardin souhaite acquérir une meilleure autonomie financière afin de mettre en place différents projets pour la communauté. Donc, je propose que la ville de Lac-de-Lage reconnaît le comité de jardin composé des membres synonymes, que la ville de Lac-de-Lage reconnaît le droit au comité d'aller chercher des commandites pour le jardin communautaire.
On va faire l'adoption. Et puis, est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette proposition? Personne. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Merci. Donc, 7.2, remerciements aux bénévoles et au comité jardin de leurs implications à la corvée du jardin communautaire. Donc, c'est un gros remerciement là, pour Marie-Michelle qui est présente, son conjoint, ainsi que tous les membres qui sont ici, qui ont mis leurs mains au jardin et les autres qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui a fait renaître le jardin.
Merci. Parfait. D'accord. Donc, merci. Donc, 8, il n'y a pas de point. Donc, 9.1, on va vous parler maintenant dans Affaires nouvelles. Je vais passer la parole à François pour quelques séquences de Il y a trois points que François va nous parler.
Oui. Pas de problème.
Je vais changer. François, il fait des beaux PowerPoints, je vais les voir. Hein.
Oui, c'est ça.
Je veux savoir, parce qu'au cours des années, on a fait faire des plans d'intervention en 2014, en 2019. En 2019, c'est là qu'on a fait le plus de gros travaux, là, simplement les emplois qu'on a fait, c'est là. Donc, TEC 1,1 million sur 40 ans. Vous demandez tantôt c'est jusqu'où ça va. Ça va jusqu'à du 40 ans. Donc, une subvention de 940 000 $. En 25, on en a fait une l'année dernière, plan d'intervention, qui a défini un certain nombre d'urgences qu'il fallait faire, en fait, pour compléter toutes les infrastructures qu'il fallait faire. Donc, c'est un peu un cycle là, qu'on fait. Alors, on reprend les vieux plans d'intervention, on regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait en fonction de ce qu'on était capable de payer, puis on en ajoute. Donc, cette année, on lève le pied sur les gros travaux au niveau de nos infrastructures, hormis une intervention d'urgence sur une conduite. Il y a la phase du parc qu'on va finir cette année. Alors, je vais revenir un petit peu plus loin. Alors, il y a un ponceau sur l'avenue du Rocher qu'il faut absolument réaliser cette année. Il est en fin de vie utile. On est chanceux, il résiste encore autant. Mais nous, on sait qu'il est dans un très, très un piteux état, donc il faut le réparer. La phase du parc municipal. Ensuite, il y a un parc derrière. En fait, parc municipal, hein, il y a comme deux phases. Là. Il y a une phase qui est plus associée à la subvention, puis il y en a un autre qui est des réaménagements au niveau des problématiques d'eau qu'on a dans le parc. Quand il y a des grosses pluies, là, on s'est fait des frousses parce qu'on a vu des lames d'eau arriver presque autour de l'hôtel de ville. Donc, il faut agrandir nos bassins de rétention pour être capable de contenir ces eaux-là. Alors, ça fait partie de la phase B. Tout ça va se faire en régie pour la phase B. La phase A, c'est ce qu'on vient d'octroyer comme mandat à CTM. Ensuite, on a alésage et drainage de conduite sanitaire. Je vais en revenir. Là, des travaux publics, vous savez, l'arrière du manoir, du théâtre et de l'ancien pavillon, on entrepose là nos abrasifs. On entrepose des matériaux de construction. En fait, c'est le notaire d'entrepôt pour les travaux publics. Et nos abrasifs ont vraiment été mis aux normes. C'est-à-dire qu'il faut avoir un abri, même si on met très peu de sel dans le sable qu'on met sur nos routes, on met du sel pour pas que le sable prenne en prêt, comme on dit. Donc, on met 4-5% de sel là-dedans. Sauf que si on n'abrite pas d'une façon convenable ce dépôt d'abrasif, le sel se liquifie et va dans l'aquifère, va dans les nappes en dessous. Donc, on est obligé de rendre ces surfaces imperméables et recouvertes. Donc, on va acquérir un gros don qu'on va installer dans ce secteur-là et on va en profiter pour tout réaménager le secteur dans ce coin-là. Les géotubes, ben c'est ça, là, c'est nos grands sacs de boue qu'on a vidangés l'été dernier. On s'attend à être capable d'en disposer cet automne. Alors, s'il y a assez de sécheresse dedans, de dessiccation, c'est-à-dire que l'eau est assez évacuée de ces géotubes, il faut savoir que c'est des géotubes qui sont imperméables, c'est-à-dire qu'ils laissent sortir le surplus d'eau de la boue. Donc, ça, c'était un élément qui va se faire cet automne. Et on doit aussi réaménager un aire de compostage. Ici, c'est nos étangs aérés. Et actuellement, les géotubes là, sont disposés le long des étangs. Et on veut aménager aussi l'air où on entrepose actuellement les feuilles, les fameuses feuilles d'automne. On veut les composter. Donc, il faut aménager aussi un parc pour recevoir ces feuilles-là, encore une fois, avec une imperméabilisation du sous-sol. Alors, ça, c'est un autre travail qu'on va faire. Donc, si je regarde dans les séquences, regardez ça, c'est les travaux, là. C'est tout le plan de match qui reste pour la ville. Non, on ne les fera pas cette année, mais ils sont tous planifiés. On sait exactement ce qu'il faut faire pour l'avenir. Donc, tout ce qui est en vert a été réalisé. OK? Alors, il reste l'avenue du Ruisseau, l'avenue du Sentier, une partie de la rue du Manoir. Ça, c'est des premières rues qui datent, là, l'aqueduc date du début de la ville, des années 68-70. Donc, des tuyaux en fonte grise. Et ici, entre autres, sur la rue du Ruisseau, c'est là qu'on a souvent des bris parce que ça a été fait d'une certaine façon à l'époque. Il y a aussi, là, devant le Manoir, ici, juste devant l'hôtel de ville, c'est une conduite qui est dans l'argile, qui fait la job encore, mais il faut vraiment y voir. Mais pour l'instant, elle fait la job. D'accord? On va retarder un peu ces choses-là. Et ce qu'il faut faire en priorité, c'est ça. C'est la conduite sanitaire qui ramasse toutes les eaux usées de la haute ville et qui amène ça dans le collecteur vers l'usine. Mais suite aux analyses qui ont été faites par la firme Tetra Tech, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de racines dans ces conduites-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Il faut penser des robots qui vont couper les racines dans les tuyaux. Plutôt d'avoir à changer la conduite, ils vont ensuite rentrer ce qu'ils appellent une gaine. Puis ce ne sera pas une gaine 24 heures, ça va être une vraie gaine. Tout à fait, il y a pas longtemps. Donc, c'est une gaine qui permet qu'une fois gonflée, vient enrober le tuyau, enrober par l'intérieur, je dirais, le tuyau, comme d'un tuyau de plastique, un peu comme ça ici. Donc, c'est un truc qui est beaucoup moins dispendieux que changer les conduites. Et puis, à ce moment-là, les racines, là, on va faire un beau ménage à cet égard-là. Donc, vous voyez, là, ça, c'est des gros travaux au niveau des travaux publics. Maintenant, si on regarde dans l'ordre, ponceau numéro 2, remplacement du ponceau, il va y avoir une voie de contournement pendant quelques jours. Ça va se faire essentiellement en régie, c'est-à-dire avec nos employés. Puis, on va engager équipement et machinistes pour venir nous opérer là-dedans. Les plans de devis sont déjà faits. Dès qu'on va être capable de les réaliser de ce printemps, dès que ça va être assez asséché, on va réaliser. Parc municipal, phase 3, je parlais avec le contractant. On parle début juin. Écoutez, tout est en retard actuellement à cause de l'hiver là, qu'on a eu. Il y a encore de la neige à des endroits. Les sols sont gorgés d'eau. Fait que vaut mieux attendre que le terrain soit asséché pour pas que la machinerie brise trop le terrain. Donc, il m'a dit que dès que le joueur arrive et embarque là-dessus, ça devrait être terminé pour lui le mois suivant, le début juillet. Il considère que ça va être terminé. Nous, à l'intérieur de ça, on va travailler à reconférer les nous de jardin, les fameux bassins de rétention. On va faire un parc éponge. Puis là, je vous garde une surprise. Je ne vous la présente pas tout de suite, la surprise. Il faut garder un peu de suspense dans la vie. On va déplacer l'aire de pétanque. On va faire plus de pelouse. Il y a beaucoup de secteurs sur gravier, là. On va ramener ça en pelouse. Puis on va redélimiter le sentier un petit peu plus sinueux. Puis on va le compacter avec la poussière de pierre. Puis ça, ça va être un sentier qui va être entretenu à l'année. On s'est aperçu que les gens aiment franchir le parc l'hiver aussi, avec des poussettes et autres. Fait qu'on va faire ça. Donc, redéfinir le sentier. Donc, on va faire ça en régie, peut-être avec de l'extérieur aussi, mais on verra, là. Mais tout ça se fait en régie, puis j'essaie d'aller chercher des subventions, entre autres, là, à la Ville de Québec, là, pour lesquelles on a des sommes qui sont allouées à ce genre de projet. Alésage, gainage, je viens d'en parler. C'est un mandat externe. Alors, on est déjà en train de faire des appels d'offres là, auprès des fournisseurs. C'est des équipements très spécialisés. Il n'y en a pas des tonnes. Ensuite, on a l'aire des travaux publics, régalage du site, fondation en bloc et pose de dôme. On a déjà plusieurs soumissions. Ça varie autour de 75 000 $. Puis, on a une subvention pour faire ça aussi. Aire de compostage, c'est un travail qu'on va faire en région. L'idée, c'est de refaire un petit bassin puis de l'imperméabiliser avec un puiseur. Escalier de support de canaux, bien, c'est déjà fait. Alors, à chaque année, nos employés rénovent nos parcs nautiques en faisant des supports à canots, à kayak. On a réparé l'escalier, puis on va allonger le quai aussi. Il doit y avoir une autre plateforme, là, avec même une échelle pour ceux qui tombent dans le lac. Donc,
vous savez, la dernière phase.
Parce qu'en principe, on ne se baigne pas dans le lac, on tombe dedans. Mais pour en sortir, on va mettre une échelle pour des fins de sécurité. Et cet automne, transport de géotubes. Et c'est là que ça rentre dans la grosse subvention dont Mélissa parlait tantôt. C'est le règlement d'emploi. Donc, notre usine va pouvoir se remplir dans les prochaines années.
C'est déjà commencé.
C'est déjà commencé. Très rapidement, collecte de feuilles. On s'est dit cette année, on faisait qu'une seule collecte à l'automne, pour avoir des belles feuilles propres. C'est du carbone à plein. Mais ce printemps, on va en faire une aussi. Parce que le printemps, là, c'est des feuilles qui sont gorgées d'eau, sont remplies de sable. On ne veut pas composter ce genre de truc. Donc, on va en faire une collecte. La date est
25 mai.
25 mai. Ben oui, t'es écrit ici, regardez. Je lis même pas les affaires. En principe, toutes ces informations sont sur nos sites, nos infolettes. Il faut aller consulter. Collecte des encombrants. Pourquoi qu'on l'a mis le 6 au 8 juillet? C'est qu'il y a des déménagements. Et à chaque année, on se fait apprendre que quand les gens quittent, là, ils tout mettent tout ça, ils mettent une mobilier de cuisine puis de salon quasiment sur le bord de la rue, puis ils sauvent. Puis là, nous, tous nos arrangements ont déjà été pris. Ça fait que si on saisit, on va en faire une seule. Et c'est pour ceux que ça presse, tu sais, là, qui ont une envie de se débarrasser dans ça, il y a l'éco-centre qu'on paye sur Jean Talon. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez y aller, là, vous donnez votre permis de conduire, il regarde votre adresse, puis vous pouvez aller porter vos encombrants là. Il ne faut pas toujours attendre la ville, c'est le billet, okay? Parce qu'on ne peut pas toujours faire ce genre de truc.
Si vous y allez, visitez le samedi après-midi à 14h, je suis allé le 137, puis il y avait 100 voitures devant moi. C'était en haut de la côte, dans le tournant, genre en face de chez SA, j'ai commencé à faire la pile.
T'as le don, moi, de m'en faire de la bonne publicité.
Il y a d'autres moments, hein, c'est presque toujours ouvert, mais samedi après-midi,
ouais,
au mois de mai.
Ben ouais, que c'est ça.
Mais ils l'ont tout refait, par exemple, ça a vraiment amélioré.
Ouais, ouais, ça
rend bien. C'est dans l'asphalte, tu sais, c'est vraiment amélioré.
J'aurais choisi un
autre. Monsieur Black, ouais, je voulais juste ajouter aussi pour les encombrants, faut pas oublier que maintenant, en fait, le changement de saison, c'est une période super occupée pour tous nos employés municipaux. Donc, quand on faisait la collecte au mois de mai, bien, entre le changement de saison, ça faisait beaucoup de travail. Et aussi, bien, cette année, on va nous-mêmes faire le balayage. Je pense que tu vas en parler. Mais donc, ça a rajouté une charge de travail au printemps. Donc, à un moment donné, il n'y avait plus assez d'heures là, pour continuer de faire la collecte à ce moment-là. Puis c'est là que la proposition va pousser ça. Donc, Julien est arrivé là, pour alléger un peu la charge à ce moment-là.
D'ailleurs, pour les encombrants, on vient d'acquérir une merveille, c'est une immense, on appelle ça une boquette, là. C'est une immense affaire, là. Plutôt que les gars doivent soulever.
Ils vont mettre ça devant notre rétrogaveuse, là, puis ils vont déposer ça, puis ils vont glisser ça. Puis... on commence à
sécher.
Une grosse affaire, c'est. Hey, mets pas le boquette.
Ça va être moins forçant pour les gars, il y a moins de risque de se blesser ici, puis le boquette, il lève, puis il va le gonfler directement dans le coffre de l'arbre.
Dis pas qu'il est beau, là, mais il doit être efficace. Le fameux bac de bras. Quoi dire sur le bac de bras?
Ben, qu'on a une collecte le 25 mai, puis qu'on ne récupère pas les bacs bruns. Pour le moment, on va garder une collecte par année, parce que justement, les fermetures de jardinières, les fermetures de plates-bandes, il y a toujours quelque chose. Puis on s'est dit que justement, au printemps, ben, ça permet de faire un petit nettoyage. Un jour, on va voir ce qu'on va faire, mais c'est parce que... essayez d'imaginer qu'il faut que je ramasse 330 bacs bruns, puis que je les empile à quelque part, puis que je ne sache pas quoi en faire. Fait que ça aussi, c'est un gros questionnement à savoir qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bacs bruns-là. Fait que, mais pour le moment, ben, on rend l'utile à l'agréable, fait qu'on le réutilise au moins une fois par année.
Ouais. Puis il ne rentre pas dans le bac bleu, il ne faut pas le laisser.
Mais on va quand même créer des composteurs qui vont être à des places ciblées où que quand vous allez en avoir plein, vous allez pouvoir les mettre dedans. Les gars vont les transporter et aller les porter dans notre conteneur de matière organique qu'on aura prochainement.
Donc, collecte de branches aussi, c'est une demande. Pour vous dire, l'année dernière, on avait un amoncellement de branches. Il y a un soumissionnement qui nous charge cher.
C'est 8 000 $ que ça coûte à chaque fois qu'on veut faire nettoyer le coin des branches parce que ça s'empile puis il n'y a personne qui veut parce que justement, ils moisissent et l'humidité fait qu'il n'y a rien à faire avec les résidus qui sont...
Ils ne peuvent pas le valoriser comme ils veulent. Donc, cette semaine, le bateau est arrivé. Notre petite merveille déchiqueteuse devrait arriver. Et ça va aller sur le tracteur.
Non, elle est encore sur le balai.
Elle est encore le balai?
C'est le balai qui arrive.
Ah, c'est le balai. Le balai, il arrive peut-être demain. Mais tout ça va être, je pense qu'il va y avoir des publications, puis il va y avoir des horaires.
Oui, normalement, ça va être en ligne. Là, les gens, il y en a qui en ont déjà mis, ils nous ont déjà écrit un courriel, ou ils nous ont déjà appelé. Fait que nous, on a déjà commencé la liste. Fait que dès qu'on l'a, on va commencer au fur et à mesure. Puis pour le balai de rue, ben, on attendait juste qu'il soit fini d'installer. Ils sont en train de faire les derniers tests, c'est ce qu'ils nous ont écrit ce matin. Fait que normalement, le balai de rue devrait arriver demain ou après-demain, puis après ça, ben, ils vont commencer là, à faire le nettoyage à travers la ville.
Un des avantages, c'est que l'année dernière, on était dans les derniers à avoir le fournisseur qui venait faire le ménage. Même le manoir a eu des problèmes. Donc, cette année, là, on va être autonome sur cette question-là. Donc, le délai, c'est qu'on l'installe sur la pépine, la fameuse New Orleans. Mais il fallait augmenter notre capacité hydraulique pour que le balai balaye un peu plus fort. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Alors, il n'y a pas de crainte. Là, il y a un Kubota, un gros Kubota qui est là. C'est un échange temporaire. On ne l'a pas acheté. Donc, il y a ça. Donc, le balai est fait.
Oui, pour les branches, est-ce que la collecte va se faire à domicile?
Oui, dans le fond, c'est pour ça qu'on demandait de s'inscrire. C'est parce que, tu sais, pas que les gars, ils partent un mardi matin et qu'ils sont obligés de faire la ville au complet. Ben, on demande aux gens de s'inscrire. Fait que ça va raccourcir au moins le délai puis ça va aller plus rapidement. Là.
Donc, on peut le faire maintenant?
Oui, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, mais la confirmation de la date où que ça va partir... Dès qu'il arrive de bateau et qu'on le sait, on va vous écrire partout, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant, il n'y a pas de problème.
Et si vous avez à aller à l'éco-centre, ils prennent aussi les branches. Hein?
Oui, c'est ça. OK, je continue. Pour la question du VAP, on va être obligé de le fermer temporairement dans certains secteurs. Il y a des séquences. Alors, dès que CTM rentre en lieu, là, on va tout clôturer ça ici. Parce que les jeux d'eau vont venir dans le secteur aussi. Un abreuvoir, il y a un câble et une conduite d'eau qui doit être amenée là. Il y a des travaux qui vont se faire là. Donc, il va y avoir des travaux. Ça va être bien important de respecter ça parce que rien que les petites dalles de béton pour installer les jeux d'eau et l'abreuvoir, là, ça se chiffre à plusieurs milliers de dollars. Fait qu'il ne veut pas avoir des petites pattes. On va même checker les ratons laveurs. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a l'eau. Ça, les poules sont déjà déplacées. Ils sont toutes bien abritées dans ce secteur-ci avec leur petite cage.
Puis, tout le secteur que je dois réaménager là, pour les fameuses nous, là, c'est tout ça ici. Là. La pétanque va venir ici, là, mais on faut tout retravailler ça ici. Donc, ça va être une autre séquence qui, elle, va se faire là, suite à ces travaux-là. Pour ne pas avoir trop de machinerie qui se promène. Donc, on va essayer de garder au maximum là, les aires de jeu là, disponibles, mais ça va être clôturé pour ne pas aller dans les aires de travail. C'est bon? Donc,
merci.
Le dernier point, au niveau environnement, on a acheté des filets anti-oiseaux. L'hivernage, c'est des belles petites bêtes, mais quand ils se multiplient à la vitesse qu'ils font, il y a quelques années, il y était quelques couples. L'année passée, il était à 44. Donc, dès qu'ils font des œufs, s'ils font comme des petits saumons, ils reviennent à l'air de naissance. Donc là, si on regarde ça aller, ça va se multiplier de façon à l'infini. Donc, on va essayer de clôturer où il y a de la pelouse. Je pense au parc nautique sur l'avenue du lac, mais aussi où ils vont se reposer sur le banc de sable devant la canalisation. On va tout aller clôturer ça. C'est pas qu'on est méchant, c'est qu'on veut tout simplement qu'ils aillent faire leurs œufs ailleurs et qu'ils aillent aussi se nourrir ailleurs. C'est ça au bel ordre qu'on détruit des œufs. Et ça ne tente pas. OK? J'aime mieux leur dire d'aller ailleurs que d'avoir à les contrôler sur place. Donc, c'est des filets, vous allez voir, là, c'est des filets noirs qui vont. Le manoir, on a déjà installé, puis on va le faire conjointement avec eux aussi. Enfin, j'ai un autre point. Le 6 juin. C'est
une 5
juin.
C'est
avant le. Pourquoi il
parle-le? Pas un samedi, tu veux faire ça un samedi?
Pourquoi il parle-le?
C'est pas la journée de l'environnement?
Le 5
juin. On l'a fait pour ça.
Bon, ben, c'était pas une erreur, finalement. Okay. Il va y avoir une journée d'environnement, il va y avoir différents petits kiosques. Entre autres, Hydro-Québec devrait être présent, parce qu'Hydro-Québec vient faire un gros travail d'élagage cette année, au lac de l'Âge. Puis on va les avoir à l'œil, parce que des contractants sont là pour faire ça vite. Ils laissent tous les matériaux sur place. Ah oui, je sais bien. On a demandé leur présence pour venir expliquer les choses dans ce petit. Ça ne durera pas toute la journée, on va essayer de faire ça le plus concentré. Il va y avoir des annonces plus précises sur le déroulement de cette journée-là. J'ai-tu fini? L'autre affaire, les vignettes. Ceux qui ont des vignettes pour le stationnement devant le parc nautique, il faut venir les changer. Ça ne coûte rien, là. Parce qu'on a une vignette pour le 20-26. Alors, il faut même passer au centre, ici, à l'administration, puis on vous les échange. Ça complète, monsieur le maire.
Merci. Il y a des espaces canons, kayaks, aux deux endroits. Au troisième étage, malheureusement, il y en reste plusieurs.
Merci pour ces informations. Merci, François. Moi, je voudrais juste ajouter un dernier point dans la nouvelle. Le 6 juin, samedi. Samedi le 6 juin aura lieu la grande journée des petits entrepreneurs. Donc, historiquement, ça fait peut-être 4 ou 5 ans que ça fonctionne ici. Donc, ça va avoir lieu dans le chapiteau qui n'est pas encore là, mais le chapiteau du manoir de l'autre côté. Donc, vous êtes évidemment bien invités à participer. Il va venir encourager les entrepreneurs. Donc, ça sera le 6 juin de 10h à 14h normalement. Voilà, je voulais mentionner ça. OK, période d'intervention des membres du conseil, il n'y a pas de message.
On peut peut-être dire aussi la Saint-Jean, qui aura lieu dans le fond le 24 juin de 13h à 22h30. Il y a beaucoup d'activités, on essaie toujours d'avoir des activités pour ados, donc il va y avoir une roulotte d'arcade, il va y avoir un monsieur qui va venir faire du cirque, il va y avoir une maquilleuse, il va y avoir un DJ en soirée. Et ça devrait être assez le fun. On devrait avoir beaucoup de plaisir. Vous êtes tous invités. On va vous envoyer des informations concernant le souper, toutes ces informations-là, mais vous êtes les bienvenus.
Le 24 juin, parfait. Merci beaucoup, Mélissa.
Tu veux le cas?
OK, donc on va passer à la période de questions.
On voulait faire le point sur notre dossier d'Empire avant.
Voici donc, ouais. Effectivement, j'avais pas l'impression.
Parce qu'on avait dit là, qu'on ferait le point à chaque rencontre. Pas qu'on a tant de nouveaux, mais c'est quand même un dossier important, puis ça continue de progresser. Donc, si on récapitule depuis le début, là, on a nommé ce soir là, 3 personnes pour être responsables d'entreprendre des négociations, mais comme vous le savez, c'est déjà entrepris depuis quand même déjà plusieurs semaines. Donc, si on récapitule, au départ, on a fait une rencontre ou deux là, pour rétablir là, le canal de communication avec le conseil d'administration d'Empire 47. Puis rapidement, on leur a fourni une liste de ce que nous, on appelait les incontournables, c'est-à-dire ce pourquoi la ville, ce à quoi on tient vraiment dans, pour que le projet puisse se poursuivre tout en respect de notre, notre réglementation puis de nos besoins, etc. Suite au dépôt de cette liste-là, ils sont revenus avec la liste, avec des commentaires, des questions, des ajouts qu'on a nous aussi. On fait un peu de ping-pong, on est rendu à la version 3 de cette liste-là qui maintenant va se transformer en une entente qu'on va débuter la rédaction sous peu pour en venir à une entente qui serait signée dans les prochaines semaines pour en venir éventuellement à une entente qui nous permettrait de mettre fin à notre poursuite ou notre litige là, avec Empire 47, puis tout ça dans le but ultimement de rétablir la conformité et de permettre à Empire 47 d'être bien établi avec les besoins qu'ils ont. Je pense que c'est pas mal ça, Karine, ou Alexandre?
Ça va, ça ressemble à ça, c'est le moment donné, donc les conversations sont toujours très actives, donc on est optimiste pour la suite des choses.
Puis, ben, je tiens à dire aussi que l'administration est impliquée aussi. Là. C'est pas seulement que les.
Tu voyais d'avoir un peu plus de détails par rapport à l'entente.
Bien, l'entente, présentement, elle n'est pas rédigée. On a une liste là, de ce qu'on veut mettre dedans. On n'a pas encore fait la rédaction, mais comme je l'ai mentionné, on établit la liste de ce que nous, on considérait comme étant des incontournables. Puis, on a travaillé avec François et René aussi pour. Évidemment que ce ne soit pas juste des vœux, mais que ce soit quelque chose qui corresponde à la réglementation, puis éventuellement que ça puisse être serré dans notre municipalité en toute conformité, disons. Puis, ultimement, ben, l'entente est rédigée à partir de ce qu'on aura, ce qu'on se sera entendu. Mais je ne dis pas rien.
Dans les contours.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait une diminution substantielle des processions d'auto qu'on voit chaque jour de beau temps?
En fait, oui. On a demandé de limiter la capacité du stationnement, d'établir sa capacité puis de la limiter à une capacité préétablie. On leur demande de mettre en place des processus pour inciter davantage l'utilisation du P2, que ce soit avec de l'affichage, que ce soit sur leur site internet, tu peux déjà te consulter pour savoir s'il y a plus, si les sentiers sont ouverts. On leur a dit vous pourriez ajouter l'utilisation du stationnement pour inciter les gens à utiliser davantage leur stationnement. Ensuite, tout ce qui est des bâtiments, des infrastructures, on est en train de regarder comment on peut améliorer/rendre conformes les installations actuelles afin que ça réponde à notre réglementation. On a étudié avec la MRC de la Jacques-Cartier quel serait un outil d'urbanisme ou qui serait une bonne méthode pour justement faire un projet dans lequel s'insèrent les besoins dans P47 sans tout changer le zonage pour faire un zonage qui serait un peu adapté à l'usage plutôt que de faire un changement unilatéral. Donc, c'est un peu ça, là, les...
Je peux, Alexandre, si tu me permets, je peux répondre spécifiquement pour l'achalandage. Il ne faut pas oublier que si vous avez suivi le dossier du côté de la ville de Stonehenge, donc ils sont en train de modifier leur zonage réglementaire pour faire en sorte qu'il y ait un accueil qui soit sur le territoire de Stonehenge pour permettre à une partie de la clientèle de pouvoir se stationner directement là-bas. Et dans ce dossier-là, il y a aussi l'aménagement de sentiers qui relierait directement ce deuxième stationnement-là au derrière la montagne ici. Donc, ce qui ferait en sorte que ça, c'est une solution concrète qui est en train d'être mise en place. Donc, on évolue parallèlement parce que, bon, on ne contrôle pas tout ce qui se passe au territoire de Stonehenge, mais on contrôle ce qui se passe ici. Puis, on le fait de manière en collaboration. Donc, on a eu des conversations. On a rencontré François, moi, Matt de Stonehenge, le DG, pour discuter de où était rendu le dossier. Et puis tout le monde, en guillemets, leur rame dans la même direction. Là. Donc le but, c'est d'avoir ce stationnement-là, qui s'appelle l'accueil Stonehenge, puis de conserver les activités comme il a toujours été mentionné, là, relativement à la location, les familles, donc il y a du manoir, ces choses-là. Mais tout ça, c'est sur deux voies parallèles. Donc nous, on va travailler ce qu'on peut travailler, qui est le territoire de la Belle-Alpe, puis on travaille en collaboration avec ce qui se passe sur le territoire de l'île de Stonehenge. Mais ça va contribuer grandement à diminuer l'achalandage, ça c'est clair, puis c'est l'objectif de tout le monde.
Est-ce que vous êtes entendu sur un chiffre pour la limitation du stationnement?
On n'est pas encore rendu là, mais on s'est entendu sur une méthode de calcul qui est généralement reconnue comme en génie civil, l'espace versus le nombre de stationnements et tout ça. Donc, on travaille là-dessus. Donc, ça, c'est pour ce qui est spécifiquement, mais il y avait 5 points très spécifiques dans l'entente. Il y avait les usages des territoires, il y avait l'environnement, il y avait les installations des bâtiments, il y avait l'achalandage, puis il y avait la collaboration donc, de toutes les parties à partir de maintenant dans le futur pour qu'on fasse partie de, justement de ce développement, on est dans la ville, donc on puisse comprendre ce qui se passe, qu'on ne soit pas mis à jour après coup, mais que tout ça se fasse de manière collaborative. Donc, c'est les 5 points principaux sur lesquels on a tout le monde discuté, échangé. Puis là, on s'en vient, vous savez, là, dans une discussion, il y a toujours des positions qu'on se rapproche. Puis là, on est sur le point d'avoir les premières versions qui vont être soumises aux avocats de part et d'autre, qu'on puisse avoir effectivement du langage plus juridique dans l'entente, mais c'est dans cette direction-là. Ça va? Merci. Bon. Merci, Alexandre.
Question.
Ben oui, on va
répondre. Votre nomination à vous, au comité, au nouveau comité, là, oui. Ça vise à accélérer nomination à vous, là, parce que je sais que c'était Karen et Alex qui étaient sur le comité de négociation.
Au
début, c'était ça.
Oui, ben, ils sont responsables du dossier, mais on travaille les trois ensemble. On a toujours travaillé les trois ensemble.
Vous, ce soir, vous avez été nommé officiellement. Est-ce que ça visait à faire en sorte d'accélérer les négociations?
Ben,
est-ce une raison particulière?
Parce que je participe aux discussions avec le conseil d'administration d'Antel 47.
Puis on a... Vous ajouter au Alex et à Khalid?
Oui, c'est toujours plus.
Non, depuis le départ, on a fait toutes les rencontres à nous trois ensemble.
Ah, OK. Oui, c'est
pas un changement.
Non, c'est toujours les trois.
Voilà.
Eux aussi sont trois.
Vous permettez, en fait, en vertu de la loi sur cité civile, les comités formés par le conseil
doivent être
nommés par résolution. Et compte tenu que c'est quand même un travail officiel de représenter la ville, on a suggéré de penser à cette nomination-là.
Denise Blanchet sur l'avenue du Lac. Tant qu'à l'entendre, potentiellement qui s'en vient, et le début des activités de 47 pour la période du printemps, c'est-à-dire quelle date qu'ils vont commencer leurs activités pour...
Je ne sais pas quand est-ce qu'ils commencent, mais je ne sais pas. C'est une bonne question.
Est-ce qu'il y aura... Dans les prochaines semaines,
oui, l'entente.
Encore ouverture de santé, mm-hmm. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, avec l'entente, on peut penser que ça va être quand que ça va se réaliser, parce que là, cet été, on va le vivre. Donc, s'il n'y a pas d'entente, ils ne sont pas tenus de respecter, ou à peu près, il n'y aura pas de lien. Est-ce que vous croyez que votre entente va être bientôt résolue? Parce que là, si je comprends... on avait dit que c'est un délai de 6 mois pour la poursuite, avant qu'elle ne recommence. On y arrive, hein? Ça doit être normalement au début juin. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a encore un surcroît, probablement un délai qui s'installe à nouveau. Donc, ça nous met dans quel esprit, là, on se dit, oui, peut-être qu'il va y avoir une entente qui va être limitative et qu'on va pouvoir voir les résultats. Mais si on n'a pas cet été... Ça veut dire qu'on va vivre ce qu'on vit depuis quelques années?
Bien, je vais vous confirmer deux choses par rapport à ça, si vous me permettez. L'entente va se faire dans les prochaines semaines. Donc, on n'est pas en termes de mois. Okay? On était au 31 mai comme date butoir qu'on avait établi. Est-ce que les derniers ping-pong illégaux vont se faire autour de ça? Quelques journées, quelques mi-juin peut-être, mais on ne parle pas de quelque chose du mois d'août, mois septembre. On n'est pas du tout dans ces délais-là. Et deuxième des choses, c'est qu'il y a des mesures qui vont être mises en place dès cet été. Donc, il y a des choses qu'ils vont pouvoir mettre en place pour éviter et mettre plus de communication autour de l'utilisation du stationnement qui est à son âme. Donc, ces choses-là vont commencer à se faire cet été. Il y a des choses aussi au niveau des installations qui vont se faire dès cet été. Donc, il y a des choses qui vont commencer à bouger maintenant. On est dans le très concret, puis ces délais-là ou ces échéanciers-là ont déjà été discutés. Donc, on est en train de finaliser pour mettre les choses concrètement sur les papiers légaux. Mais le général, on se comprend, on s'est parlé, on a une vue d'ensemble qui... il n'y aura pas de surprise, là. On n'arrivera pas, oh mon Dieu, non, on va étirer ça jusqu'à l'automne. Ce n'est pas l'objectif pour personne. Donc, mais je comprends votre inquiétude, puis c'est important. On va toujours promouvoir le fait de minimiser l'achalandage quand effectivement c'est possible. Puis ça va se faire en étapes, mais sachez que c'est fait partie des communications qu'on a eues avec Empire 47. En même temps, ben, c'est ça. Donc, il va y avoir des journées qui vont être plus occupées que d'autres, ça, c'est une réalité, là, mais au final, ils sont sensibles à ça, on est sensibles à ça, puis on a communiqué, puis on va travailler avec eux. Ils vont travailler avec nous, dans le fond, pour pouvoir minimiser ça au maximum.
Et puis, ça veut dire que les conteneurs, tout ça, ça va rester là?
Pour l'instant, je ne veux pas l'avancer, on est en train de finaliser, comme je vous dis, les ententes. Il y a des échéanciers qui vont faire partie de cette entente-là. Mais quand on va avoir finalisé tout ça, on va faire une soirée d'information où est-ce qu'on va pouvoir expliquer en détail, en long et en large, les séquences de ce qu'on prévoit, comment ça va se faire. Mais pour l'instant, c'est un petit peu prématuré là, pour que je donne des
détails. Oui, parce que ce qu'on aime ne doit pas être rendu à la même étape. Nous autres, on est prêts depuis longtemps là, à ce qu'il y ait des changements.
Ben,
mais je crois qu'on est à la remorque aussi de ce qu'on aime.
Ben, c'est pour ça qu'on traite les dossiers de manière parallèle. Donc, on n'est pas dépendant de ce qui se passe à Stoneham. Nous, on avance les choses pour ce qui se passe sur le territoire de la Galère. Stoneham, ils ont déjà fait le... Bon, ils ont déposé la motion, ils ont déposé le règlement. Ils sont en consultation publique à savoir s'il va y avoir un référendum ou pas sur le changement de zonage. Je sais dans les prochains jours que ça va être confirmé ou pas. Mais ça les positionne pour probablement changer le zonage autour de fin juin, juillet environ. Pour m'avancer exactement. Mais donc cet été, eux vont avoir complété ce processus-là. Donc, une fois que ça est fait, ben là, le propriétaire du terrain peut demander les permis pour commencer à faire les travaux. Il y a une séquence de choses qui vont se faire. Donc, mais au moins, le côté administratif, ça, c'est en cours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais nous, on travaille sur ce qu'on contrôle ici, là, c'est comment ça s'est passé.
Est-ce que le parking, le nouveau parking, l'expansion du parking, ça va être, avez-vous une idée de sa capacité? C'est-à-dire, est-ce que ça couvre presque entièrement le membership dans le 47?
Ben, c'est difficile à dire, là, mais c'est quelque chose qu'ils font pour avoir une grande capacité. Je n'ai pas le détail précis de la grandeur du stationnement, combien de voitures vont être allées là-bas. Puis ça va se faire en phase aussi. Il faut comprendre que le projet qui est sur les plans à Stoneham, c'est pas spécifiquement un accueil pour Empire 47, c'est un projet de centre écotouristique camping dans lequel va s'inscrire, va s'ajouter la capacité de recevoir. Déjà, c'est installé un peu, mais là, ça va être mieux installé, plus officialisé. Puis après ça, le fait qu'il va y avoir des sentiers qui vont relier, bien là, ça va être l'incitatif nécessaire pour, soyons pratico-pratiques, la personne qui part de Charlebourg qui vient faire du vélo ici, ben, aucun intérêt à venir ici là, si elle peut se stationner avant puis avoir accès directement au sentier. Naturellement, ça va drainer une bonne partie de l'achalandage. Donc, il y a ça qui va se passer, mais la capacité spécifique du stationnement, c'est pas pour dire qu'on ferme le stationnement ici et tout est rendu là-bas. C'est qu'il y a naturellement une quantité de gens qui vont aller là-bas. Naturellement, il y a des gens qui vont continuer de venir ici pour les activités qui sont reliées à la pump track et puis la location, donc ces choses-là, les familles, tout ça. Donc, ça va se faire par étapes. Pour répondre à votre question, je n'ai pas la capacité spécifique du stationnement. Et d'après moi, si je me fie à ça aussi, ben, c'est un projet qui va commencer en étapes, et après ça, ça va s'agrandir avec les besoins.
J'espère que vous allez pouvoir faire des simulations avec les informations suffisantes de leur part pour qu'on puisse s'assurer qu'on ne plus de ces processions-là.
Ce que je peux comprendre, c'est que ça va rester similairement pareil, parce que l'année passée, c'est la même chose. Il était là le stationnement à ce moment-là.
Mais comme je vous dis, le projet, c'est d'avoir un...
Oui, je comprends le projet, mais il ne sera pas effectif au mois de juin.
C'est certain pour cet été, il n'y a pas de telle mécanique cet été.
On va vivre ce qu'on a vécu toutes les autres années, et pour lesquelles il y avait des démarches qui avaient été entreprises.
C'est ça.
Il y
qu'il y avait quand même une volonté de mettre en place certaines solutions qui étaient discutées.
Ça, ça fait longtemps qu'ils se battent pour ça. C'est pas du nouveau, c'est
moi, ces solutions. Tu sais qu'ils ont les droits de passage
pour les propriétaires?
Je n'ai pas la confirmation là-dessus, mais je
sais que c'est le cas.
Comme je vous dis, ça s'en va dans la bonne direction. C'est ce que je peux vous dire en ce moment. Mais donc, l'objectif de ma main.
Ça va dans la bonne direction, mais on n'a aucun changement.
Non.
Ben, si votre souhait, c'était qu'il y ait un stationnement 100% fonctionnel, c'est non. Ça, c'est sûr.
C'est comme
non.
M. Louis disait. C'est
ce qui avait été soulevé comme problème, il y a au moins une amélioration.
Comme je vous dis, ce qu'on leur a demandé, c'est d'avoir des modifications concrètes pour cette année pour mieux communiquer et mieux afficher le fait qu'il y a des stationnements ici quand on atteindra les limites, tout ça, donc il va avoir. Et l'objectif, c'est d'avoir une communication en amont, là, c'est-à-dire pas juste ici à l'entrée du stationnement. C'est d'avoir une communication en amont, je ne sais pas si on dit amont ou avant, en tout cas, au début de la ville.
Ah, c'est ici, au stationnement, ça ne fonctionne pas pendant tout. J'ai déjà demandé aux petits garçons qui étaient là, puis disaient, moi, on sera une plaque d'en face parce que je dis aux gens d'être.
Non, je comprends bien.
Je ne ferai pas.
C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on travaille avec eux, puis ils sont conscients. Là. Fait que je vous dis qu'on va. Si on peut mettre ce qui est mis cette année, qui ne nécessite pas de réaménagement de terrain qu'à ce moment-là, mais on va leur, c'est ce qu'on leur demande qu'ils puissent faire concrètement cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on est rendu dans la période. Ça a bien défoqué sur la période de questions, là, mais est-ce qu'il y a d'autres questions, peu importe le sujet ou quoi que ce soit? Madame Gabriel?
Moi,
Sophia Nieto.
J'avais une question par rapport au point 6.3 qui est sur le transport.
Oui.
Est-ce que vous avez pris le temps d'analyser d'autres options avant de choisir ce transport-là? Est-ce que vous pourriez nous montrer ces autres options-là? Parce que, par exemple, moi, je m'en vais au cégep bientôt, déjà dans 2 ans, puis ça ne convient pas à mon horaire, ça ne convient pas à l'horaire des prochains cégepiens, des prochaines personnes qui vont à l'université. Puis en même temps, ça veut dire qu'il va falloir que je m'achète une voiture, ça va augmenter le trafic, l'effet de serre. D'autres affaires,
fait
que j'aimerais juste savoir si vous aviez envisagé
d'autres
options.
Je vais
voir ça.
Tu peux te lancer ou je me. Non, mais je vais le faire aussi parce que je siège à la MRC, puis je siège sur le comité de transport à la MRC, donc j'ai fait partie de toutes les conversations en lien avec le transport en commun. De deux choses. L'une, actuellement, il y a un service qui est offert par la Société de transport de Charles-Cartier. On doit renouveler ce service-là, donc c'est pour ça qu'on s'en va en appel d'offres. Maintenant, les horaires comme tels, il y a eu un changement d'horaire qui a été fait le 1er avril, si je ne me trompe pas la date, je pense que c'est ça.
Oui.
Merci. Puis, avec ça, ça venait avec le fait qu'il y avait des travaux en ville qui ne permettaient plus de rentrer avec les autobus jusqu'au centre-ville comme auparavant. Donc, on fait une connexion avec Stonehall, puis on arrête au terminus de la fin. Donc, le prochain appel d'offres sera similaire à ce type de transport-là. Pour ce qui est des horaires, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le futur, il y aura 5 départs à partir de Stonehall. Quand je dis 5 départs, c'est-à-dire qu'il y a l'autobus qui va partir de la garage ici, qui va se rendre à un stationnement incitatif à Stonehall. Et il y en a 3 départs qui partent de la station de ski, qui vont passer par ce stationnement incitatif-là, pour ensuite se rendre jusqu'au terminus de la fonte. Donc ça, cette connexion-là va se faire à 5 points différents, à 5 heures différentes au niveau de le terminus incitatif à Stonehall. Au lac-garage, il va rester 2 transports, donc 2 départs le matin, 2 retours le soir. Là, je ne connais pas tes horaires spécifiquement, mais je sais que la façon que les lignes et les heures ont été faites, c'est pour s'assurer d'optimiser la connexion au terminus de la fonde pour essayer d'avoir l'alignement avec les autobus express qui peuvent amener en ville et tout ça. Maintenant, on ne contrôle pas les horaires, le service de la ne contrôle pas les horaires de RTC, mais on s'aligne pour arriver pour maximiser le nombre de connexions. Fait qu'encore une fois, je ne sais pas spécifiquement pour tes besoins, les cégeps comme tels. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie en lien avec les autres alternatives, il n'y a pas d'autres alternatives en termes de transport en commun public qui seraient possibles, réalisables, par exemple, sur le territoire. Ce qui existe comme alternative, c'est des systèmes de covoiturage ou surtout covoiturage. Puis ça, c'est une volonté au niveau de la MRC, mais même au niveau de la ville de la Grange, c'est de mettre sur pied un système de covoiturage qui permettrait à justement les gens d'offrir des trajets et de ou d'embarquer sur des trajets. Donc, pensez à une application qui est, ça existe déjà, ce type d'application-là, mais qui permettrait de mettre en contact les gens qui ont des trajets versus les gens qui ont besoin. Donc, c'est une alternative qu'on veut travailler. Est-ce que ça va être en place pour l'automne? Je ne sais pas, je ne penserais pas en toute franchise avec l'implication de ça. Mais je sais qu'il y a aussi ce type d'alternatives-là qui sont discutées pour arriver à offrir quelque chose qui a un peu plus de flexibilité pour les usagers. C'est le seul défi, là, c'est de trouver quel service minimum on peut garantir pour la population, puis quelles sont les alternatives qu'on peut ajouter pour ajouter de la flexibilité dans le fond. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, c'est les deux alternatives là, qui sont discutées. Mais je vous avoue que, je vais faire un petit aparté personnel, mais je veux dire, quand on se lance en politique, bon, on ne sait pas toujours dans quoi et comment ça fonctionne. Puis dans les dossiers comme le transport en commun, où est-ce que ça devient des dossiers qui sont importants, qui sont sensibles, qui ont beaucoup de ramifications, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de l'efficacité des usagers. Faut respecter les budgets aussi, parce qu'on pourrait bien se doter de plusieurs heures, mais en réalité, on ne serait pas capable de payer ce type de transport-là. Donc, c'est vraiment d'être capable d'essayer de tout faire fonctionner là. C'est un bon dossier que je pourrais qualifier de politique là, qui est important pour les citoyens, mais qui aussi, il faut arriver à trouver des solutions concrètes. Fait que, bref, je vous entends très bien, là. J'ai une sensibilité, puis mon gars va aussi entrer au cégep l'année prochaine, puis on a zéro envie d'acheter une nouvelle voiture. Là. C'est vraiment pas la solution. Mais donc, c'est pour ça qu'on veut travailler, tout le monde, essayer de trouver des alternatives.
Est-ce que vous auriez été capable de créer une alternative? Je ne sais pas, par exemple, louer un autobus scolaire?
Ouais. Ben, je peux répondre à ça très rapidement, mais il y a beaucoup. Une municipalité ne peut pas opérer un service de transport en commun. C'est interdit par la loi. Donc, on est obligé de suivre une certaine. Un certain cadre législatif. C'est pour ça qu'il y a une société de transport qui s'appelle Jacques Cartier qui gère ça. Donc, c'est la. Puis après ça, pour le transport scolaire, au niveau du secondaire, il y a des autobus qui circulent, mais les autobus sont la responsabilité des établissements scolaires. Donc, si le cégep Garneau décidait d'envoyer un autobus scolaire ici, il pourrait décider de le faire. C'est pas nous autres qui contrôlons ça. Mais il n'y a aucun citoyen qui pourrait embarquer dans cet autobus-là. Ça ne pourrait être que les étudiants. Donc, là, il y a des contraintes qui font en sorte que de mettre en place un service comme ça, ça ne devient pas logistiquement opérable de séparer entre étudiants ou citoyens. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises dans la réflexion, mais c'est assez contraignant. Comme je disais tantôt, là, c'est un dossier qu'il y a tous les côtés, les facettes politiques, les facettes administratives, là, et il faut trouver vraiment une solution. Là. C'est pas... Bon, je trouve ça motivant, mais c'est pas facile de toujours trouver la bonne réponse. Oui, Mélissa, tu veux.
Juste une question. Moi, je parle en tant que trésorière et au budget, puisque je sais que les coûts vont quand même monter. Est-ce qu'on aurait pu analyser d'autres possibilités avant d'embarquer dans le double à cote-part de TCJC?
On ne sait pas ça va être combien, la cote-part. Ça, on ne le sait pas pour le moment. Deuxième des choses, ça nous coûte vraiment pas cher pour le service qu'on a si on compare avec les autres municipalités.
Oui, on s'entend qu'on est 800 habitants.
Oui, je comprends.
Il y en a 5 qui prennent notre
budget. Mais on est à moins de 1% du budget. Mais c'est pas comme ça. Mais on pourrait en parler si tu veux, Mélissa, mais le point, c'est que le transport en commun, c'est important de comprendre que c'est pas un service qu'on doit mesurer sur le plan économique, rentable, la rentabilité budgétaire. Service qu'on se donne, ou est-ce qu'il y a des retombées qui sont à plus long terme et dans plusieurs autres facettes de la société, puis ça ne sera jamais rentable, le transport en commun. Ça n'est pas à Ville de Québec, ça n'est pas à Ville de Montréal, ça n'est pas à Longueuil, ça n'est pas. C'est pas l'objectif que ça soit un service rentable. Ce qu'il faut, c'est d'être en mesure de trouver les bonnes sources de financement, puis bon, c'est quoi, c'est l'usager qui paye, c'est la municipalité, c'est les gouvernements provinciaux. Donc, tout le monde contribue pour faire en sorte que les soins puissent se déplacer, mais ce n'est pas un exercice qui peut être juste mesuré sur l'aspect budgétaire. C'est important de prendre en compte tout ça. C'est ça. Donc, est-ce que...
Bonsoir.
Votre nom, oui.
Oui, bien sûr, Marie-Michel Parent, au 124 Avenue des Monts. Alors, il y avait deux dossiers sur lesquels j'aimerais parler. D'abord, jardin bête et ciboulette. On s'entend que si la ville n'avait pas décidé de le reconstruire, ça n'existerait pas. Il y a plus de 40 membres cette année qui vont jardiner, mais je souhaitais vous annoncer qu'il va y avoir un projet collectif de végétalisation de la clôture en pourtour. On a justement droit à aller chercher des commandites. Et ce qu'on va faire pousser sur la clôture, on va le partager avec tout le monde. Il va y avoir tantôt des plantes de grimpantes, des tomates, concombres, haricots, etc. Et on veut justement permettre à tout le monde d'avoir des moments précis pour dire, bien, servez-vous, venez chercher les légumes. Sinon, dans les membres qui sont présents, il y avait des besoins, entre autres que les enfants, mais à un moment donné, ils se tournent les pouces. Alors, c'est comme ça qu'on a implanté une table de jeu, que les gens amènent des jouets. Alors, c'est bien défini. Hein, les enfants ont besoin d'avoir une délimitation pour savoir jusqu'où je peux aller. À l'intérieur même, maintenant, du jardin communautaire, on a une table de jeu pour enfants. Mais aussi, dans la nouveauté de cette année, c'est qu'il va y avoir un espace jardinet du maire pour les enfants. Alors, on va faire du jardinage avec les enfants. Alors, surveillez vos annonces parce qu'on va faire des ateliers de jardinage avec les enfants dans les, principalement en juin, parce qu'il fait encore trop froid là, pour les beaux petits plants, le congé. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la collaboration avec la ville. Je tiens vraiment à le mentionner et à vous remercier parce qu'on a besoin de quoi que ce soit, des fois une petite pelletée pour faire le remplissage ou encore les matériaux, ils démolissent, ils refont les supports à canaux, il y a du bon bois, ils jettent rien, hein, ils sont économes. Puis là, on va dire, ben moi, j'ai besoin d'une planche, quelqu'un d'autre pour préparer quelque chose. Ah ben, ils nous l'avaient. Alors, merci à la ville de votre collaboration, de votre présence. Et puis, bien, la COVID de il y a deux week-ends, ça a été vraiment extraordinaire parce qu'on a eu beaucoup de monde. Oui, les jardiniers, comme tel, mais aussi monsieur et tout le monde, qui ont décidé, même des enfants qui viennent nous aider. Et aussi, ce que pour moi, ça a été vraiment émotif, c'est qu'on a redonné vie à la pergola qui existait autrefois dans le jardin, la première version, et ceux qui l'avaient créé, dont Giancarlo Cesarello et Jean-Yves Caron, sont venus la reconstruire. Alors, vraiment, là, je tenais à le mentionner parce que ça a été vraiment un effort de plusieurs personnes. C'est un jardin comme mon père. Alors, vous avez le goût de le visiter. T'sais, des fois, vous avez le goût de venir. La porte est ouverte. Vous avez le droit de rentrer. Là, c'est pas exclusif aux membres VIP, genre, non, pas tantôt. Et puis, si jamais vous voulez jardiner, ben, appelez la ville. Mettez votre nom sur la liste d'attente parce qu'on ne sait pas. Il peut y avoir des nouvelles places, des nouveaux jardinets qui vont être créés. Alors, peut-être que vous allez pouvoir intégrer comme ça.
Je vais voir si j'ai d'autres questions, si vous me permettez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou besoin de précision? Une fois. D'accord, dernier commentaire, Marie-Michel.
Marie-Michel, pardon, si on est prêt à donner des mots. Alors, j'ose faire l'invitation à tous ici ce soir. Rendez-vous dans cette salle-ci. La municipalité nous prête la salle parce que je ne suis pas seule à vous présenter une initiative citoyenne. C'est lundi le 25 mai, ici, à 19h. Ça s'appelle Entre de la joie. Si vous allez voir un petit peu là, sur Internet, c'est l'idée d'un mouvement de voisins solidaires. On s'est inspiré, on a parlé avec différents citoyens de l'agglomération et on veut lancer ce projet-là. Pour peut-être entrer tantôt de covoiturage en France, parce qu'on en a discuté ensemble, il peut y avoir toutes sortes de solutions pratico-pratiques, rapides, juste question de pouvoir encore tisser des liens entre citoyens.
Merci, Mme Michel.
Moi, j'ai applaudi toute la journée. Là.
Merci. Alors, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée, donc ça me prendra un proposeur pour lever l'Assemblée.
J'irai proposer.
Merci, Karine. Donc, à 20h36, nous allons lever l'Assemblée. Nous allons rester disponibles quelques minutes après le conseil, si vous voulez. On se parle informellement. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Je vais prendre une réponse.